Maintenant, je vous propose de continuer notre petit voyage au pays des sciences cognitives dans le cadre de la pédagogie du bilinguisme précoce, du bilinguisme acquis en immersion. Pour continuer, nous allons rentrer dans une notion extrêmement importante qui est la notion de période critique. La question à laquelle nous allons tenter de répondre, c'est à quel âge peut-on conseiller aux parents de faire commencer l'immersion à leurs enfants? C'est une question qui est importante parce que vous l'avez déjà rencontrée certainement, on vous l'a probablement posée, on vous la posera certainement. Et donc, mon idée est d'essayer de faire un détour par une étude scientifique avant de vous proposer une réponse. Alors d'abord, définissons les termes. Période critique. D'ailleurs, vous remarquerez que nous nous trouvons là dans une situation qui interpelle et convoque un petit peu la DXIS. Quand on met ensemble deux mots comme période critique, on se retrouve devant un vocable relativement obscur a priori, et il n'est pas tout à fait évident de se former une représentation, une image mentale à partir de cela. Eh bien, le mot période, lui, ne pose pas vraiment de problème. Il vient du grec, hein, et donc ce mot désigne un chemin, une route, et plus précisément, la durée de voyage sur un chemin ou sur une route, hein. Donc, une période, c'est une durée, mais en général, une durée associée à quelque chose de l'ordre du déplacement. Et puis, critique, eh bien, critique, vous connaissez ce mot, mais méfiez-vous, il a vraiment deux sens très différents l'un de l'autre. Il vient du verbe grec krinein, et qui a donné en latin le verbe kernere, qui veut dire, les deux d'ailleurs en grec et en latin, signifie distinguer, décider. Et critique, il y a l'affaire de distinguer et qui n'a aucune connotation péjorative, et puis bien sûr décider qui n'en a pas non plus, mais dans notre vocabulaire français du 21e siècle, eh bien, critique a pris une connotation un peu agressive, un peu péjorative, voire péjorative. Et donc, méfiez-vous, dans l'expression période critique, ça n'est pas la forme péjorative qu'il faut retenir. C'est très exactement la période pendant laquelle les choses se décident. Alors, la définition que j'ai découverte à l'origine, c'est celle donnée par le professeur Jean Petit. Et je voudrais à cette occasion exprimer ici ma reconnaissance et mon admiration pour le professeur Petit parce que c'est lui, très honnêtement, qui m'a initié en quelque sorte au domaine des sciences cognitives. Alors il disait de la période critique, l'existence d'une période critique caractérisant le développement des capacités perceptuelles fondamentales de la vision et de l'audition ne peut plus être mise en doute. Et il écrivait cela dans son livre au titre merveilleux, titre qui est Au secours, je suis monolingue et francophone, publié en 1992 aux Presses universitaires de Reims. Et d'ailleurs, dans cette citation, à la suite de cette citation, il énumère les auteurs ayant déjà publié sur la période critique et avant lui. Alors, revenons à cette notion de période critique, de moment décisif, période et chemin au cours duquel les choses se décident. Nous savons avec certitude qu'il existe une période critique après laquelle le langage ne peut plus être acquis. À partir de 5 ans, et ce sont deux chercheurs, Gaonash et Golder, qui s'expriment. C'est un livre qui s'appelle Psychologie et enseignement dans Profession enseignant, manuel de psychologie pour l'enseignement, publié chez Hachette à Paris par Gaonash et Golder en 1995. Eh bien, c'est important pour nous de prendre en compte cette ligne décisive. Alors concrètement, quand on dit immersion précoce, que signifie précoce et à quel âge doit-on conseiller aux parents d'inscrire leurs enfants dans nos écoles? Alors nous allons faire le détour, je vous l'ai dit tout à l'heure, par le déploiement ontologique de l'être humain, c'est-à-dire nous allons reconstituer ce parcours biologique qui nous permet de passer de la conception initiale à l'état d'être humain adulte. Pour cela, je pense qu'il faut passer par une description, en quelque sorte, de ce chemin ontologique, de ce déploiement génétiquement programmé, encore que le mot programmé soit largement abusif, il faudrait affiner un petit peu le vocabulaire, mais c'est en quelque sorte la mise en place progressive d'un certain nombre d'étapes qui sont parfaitement gérées au niveau cellulaire et qui nous permet, nous, de devenir un Homo sapiens sapiens adulte. Et surtout, pour ce qui nous intéresse, un Homo sapiens sapiens loquens, c'est-à-dire capable de parole, de langage. Alors, une question subsidiaire à régler immédiatement. Est-ce que véritablement on peut dire que le langage humain est une particularité qui nous différencie au sein des espèces vivantes ou non? On sait, par exemple, aujourd'hui, ce que nous ne savions pas il y a encore quelques années, que les arbres communiquent. On sait aussi que de nombreuses espèces animales ont un langage de communication et qu'elles communiquent efficacement avec ce langage-là. On sait que les animaux qui sont nos plus proches cousins biologiquement, les chimpanzés, et qui ont 97,8% de leur génome tout à fait en commun avec nous, eh bien, on sait que les chimpanzés ont la capacité de bipédie, même si c'est vrai, elle n'est pas aussi complète que la nôtre. Ils ont la capacité de l'usage et l'emploi de l'outil, même si elle n'est pas aussi complète que la nôtre. Ils ont la capacité de partager la nourriture entre pairs, même si peut-être ils ne le font pas aussi systématiquement que nous le faisons. Ils ont une capacité de rapports sociaux hiérarchisés et très précisés, comme nous les avons, et peut-être à ce niveau-là, ne sommes-nous pas réellement en avance par rapport à eux. Et on sait aujourd'hui qu'ils ont une certaine forme de culture, avec même des procédures d'apprentissage. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que il n'y a pas de réelle supériorité ou supposée supériorité d'Homo sapiens sapiens par rapport aux autres espèces. Il y a un continuum, un dégradé de niveau de compétences, et parmi celles-ci, l'homme a certaines compétences pour lesquelles il est mieux outillés que les autres espèces vivantes, et puis d'autres pour lesquelles ça n'est pas le cas, et en particulier en matière de vision, d'audition et d'odorat, nous sommes largement, très largement, dominés par d'autres espèces qui ont des compétences et des capacités bien supérieures aux nôtres. Par contre, pour le langage, il a bien été prouvé que les chimpanzés qui sont les plus aptes à nos côtés, ne peuvent apprendre que quelques centaines de mots, mais qu'ils n'accèdent jamais à un point bien particulier qui est la capacité syntaxique. Donc, ça n'est pas le langage qui nous différencie, ça n'est même pas la parole articulée, c'est la capacité syntaxique qui nous différencie des autres espèces. Alors, je vais vous proposer une rapide description du système nerveux central et essayer de retenir quelques points d'appui. Et je vous invite très fortement à enrichir votre bibliothèque personnelle, en particulier je vous invite à lire et à acquérir un livre important pour vous, écrit par Monsieur Jean-Pierre Changeux, L'homme neuronal, que vous trouverez en collection de poche chez Hachette, donc à un prix vraiment raisonnable. Je crois pouvoir dire que vous avez besoin de ce livre pour vous orienter correctement. Et je vais faire un rappel succinct d'un certain nombre de points concernant notre système nerveux central. Alors, le système nerveux central se compose de deux éléments principaux. La moelle épinière, d'une part, qui nous permet d'irriguer tout le système nerveux corporel, et puis l'encéphale qui occupe la partie supérieure de notre corps. Nous allons nous occuper plus précisément de notre encéphale, puisque c'est là que se jouent les apprentissages, et nous allons constater que l'encéphale se compose de trois parties principales, le tronc cérébral d'une part, le cervelet d'autre part, et le cerveau d'une troisième part. Alors vous voyez que je suis parti toujours de bas en haut, en remontant, et je vous invite à constater que le cerveau, qui est le plus volumineux de cet ensemble de notre système nerveux central, eh bien l'évolution de l'espèce l'a placé au sommet de notre corps et bien protégé par la calotte crânienne. C'est-à-dire que la nature a quelque part pensé qu'il y avait quelque chose de précieux là. Notre encéphale se compose de deux hémisphères cérébraux asymétriques. J'insiste, ils sont asymétriques, séparés par des ventricules et lesquels sont remplis de liquide céphalo-rachidien. Chaque hémisphère est marqué par des scissures qui délimitent de chaque côté quatre lobes cérébraux, ce qui fait qu'en tout, vous avez 8 lobes cérébraux. Nous avons deux lobes frontaux, un à gauche, un à droite, donc juste derrière votre front. Nous avons deux lobes pariétaux qui sont sur les côtés, au niveau avant de votre crâne, mais sur le côté. Deux lobes temporaux qui sont au niveau de vos tempes, vraiment au-dessus de vos oreilles. Et ensuite, nous avons deux lobes occipitaux qui se situent au niveau de notre nuque. Le cerveau se compose d'une substance grise d'une part en périphérie et d'une substance blanche au centre. Le système nerveux central comprend les centres nerveux et les voies d'association. Les centres nerveux sont des groupements de neurones répartis dans la moelle épinière et dans l'encéphale qui reçoivent les stimuli du monde extérieur. C'est grâce à eux que nous avons une perception et c'est par eux que se produit l'activité de traitement, l'encodage électrochimique des stimuli qui viennent du monde extérieur. Ils sont en quelque sorte l'interface entre nous et le monde. Les centres nerveux commandent les réponses de l'organisme humain aux stimuli extérieurs et l'activité nerveuse volontaire s'organise dans les centres nerveux que l'on appelle également la substance grise, ce que dans un autre registre de langage un peu plus trivial, les gens appellent la matière grise. Les voies d'association entre les centres nerveux sont des fibres que l'on appelle fibres d'association ou substances blanches qui permettent à distance de relier différents centres. Alors, l'organogénèse du système nerveux central, eh bien, c'est tout ce parcours très bien organisé qui se déploie à partir de l'embryon, à partir de la conception et qui construit pendant la gestation et bien après la naissance ce qui deviendra un adulte Homo sapiens sapiens. L'embryon commence par deux cellules, et puis ces cellules, vous savez, que l'on appelle cellules mères et sur lesquelles la recherche s'est énormément focalisée depuis une dizaine d'années et qui est un petit peu le gisement des plus gros espoirs thérapeutiques à l'heure actuelle, eh bien, ces cellules vont se déployer dans le sens d'une diversification et d'une spécialisation de plus en plus complexe et de plus en plus organisée. Un trait remarquable du développement de l'encéphale de l'homme est qu'il se prolonge très longtemps, et en particulier très longtemps après la naissance, écrit Jean-Pierre Changeux, c'est à la page 295 de l'Homme neuronal. Le poids de l'encéphale augmente d'un facteur 5 après la naissance jusqu'à l'adulte, ce qui est absolument phénoménal. La grande majorité des synapses du cortex cérébral se forment après la mise au monde de l'enfant. Et donc, j'insiste et j'attire votre attention, ce déploiement ontologique continue pendant la scolarité. Vous avez affaire à des homo sapiens sapiens en construction. J'attire vraiment fortement votre attention à ce sujet parce que leurs compétences et leurs capacités biologiques ne sont pas abouties, et en particulier en ce qui concerne les enfants de cycle 1, elles sont très inabouties. Vous ne pouvez pas espérer leur demander ou attendre d'eux des performances qui sont totalement impensables compte tenu de leur déploiement ontologique au temps T où vous les avez en classe. Alors, cette construction ontologique, lorsqu'elle est, je dirais, normale, ce qui est un mot bien désagréable à prononcer, mais lorsqu'il ne se produit ni accident génétique, ni accident, tout simplement accident de la vie, voire accident psychologique, permet d'avoir un enfant, puis un adolescent et enfin un adulte en bonne santé et dont les constructions cérébrales et cognitives vont pouvoir se déployer de façon harmonieuse, à condition, bien sûr, de bénéficier d'un biotope social, culturel et cognitif suffisamment riche pour qu'ils reçoivent tout au long de son histoire personnelle tous les stimuli nécessaires à la construction de ses compétences et des compétences qui seront réinvestissables dans le milieu dans lequel il vit et dans le milieu naturel et social dans lequel il vit. Alors, notre cerveau reçoit par 5 portes l'ouïe, la vision, le goût, l'odorat et le toucher, des stimuli, des messages, et qui vont être engrammés au moyen d'un code électrochimique dans nos cellules nerveuses. Donc, notre système nerveux central est prévu pour recevoir des informations électrochimiques qui lui viennent en quantité, à condition bien sûr d'être dans un milieu vivant et actif, qui nous viennent en quantité par notre système nerveux périphérique, et notre système nerveux central va les traiter et puis commander des réponses à ces stimuli. C'est l'intensité et le volume des interactions entre le sujet humain et son environnement naturel et social qui va jouer un rôle décisif dans, tout simplement, la construction du système nerveux central et sa capacité à recevoir et encoder des messages, d'une part, et puis lire ces messages, relire ces messages, mémoriser ces messages, et puis produire des réponses. Je fais juste un petit point plus précis sur deux aires cérébrales spécialisées qui vont se développer très fortement, justement, entre l'âge de 1 an et l'âge de 4 ans, qui sont les aires de Broca et de Wernicke, et qui concourent très très fortement au langage. Eh bien, Sachez que si Wernicke bâtit plutôt la syntaxe et la sémantique, Broca, c'est le lieu où s'élabore le programme de commande musculaire qui permet l'articulation et la compréhension des séquences syllabiques qui nous permettent d'accéder au sens d'un discours ou d'un énoncé à l'oral. Alors descendons maintenant un petit peu plus dans le détail à la cellule nerveuse. La cellule nerveuse de base, vous le savez, s'appelle le neurone. Il y en a de plusieurs sortes. Certains de nos neurones sont extrêmement longs et ils jouent un rôle particulièrement important. Alors, d'abord, sachez que nous avons à peu près 10 puissance 15 neurones à notre disposition et que cette quantité qui est absolument considérable et qui est à peu près égale à la quantité des étoiles dans le ciel, y compris celles que nous ne voyons pas, cette quantité, nous ne pouvons pas savoir exactement si nous sommes égaux lorsque nous naissons par rapport à cette quantité-là. Ce que nous savons, c'est que toutes ces cellules-là ne vont pas survivre. L'Espagnol Santiago Ramón y Cajal les a magnifiquement fait surgir de l'ombre, les neurones, grâce au nitrate d'argent et à la méthode de Golgi, au cours de ses recherches histologiques, recherches qu'il a menées à partir des années 1887-1888. Et Santiago Ramón y Cajal rendait lui-même hommage à l'anatomiste allemand Heinrich von Waldeyer, qui fut l'inventeur de la théorie neuronale en 1890. Vous voyez que ce sont des connaissances humaines qui aujourd'hui ont tout de même plus de 120 ans. Il faut savoir, et ça intéressera nos amis alsaciens, que le professeur Heinrich von Waldeyer fut professeur à l'université de Strasbourg, puis de Berlin, et qu'il est le père de deux mots qui sont devenus extrêmement courants pour nous, le mot neurone et le mot chromosome. Vous étudierez par vous-même les différents types de neurones et leurs anatomies. Et par exemple, dans la première partie du livre intitulé « Cerveau et psychologie » d'Olivier Houdet, Bernard et Nathalie Mazoyer, que vous trouverez dans ma bibliographie. Vous lirez attentivement également les lignes de Jean-Pierre Changeux, toujours lui, concernant la profusion et la mort neuronale, aux pages 265 et suivantes de son livre « L'homme neuronal » dont nous avons déjà parlé. Enfin, en descendant encore plus dans le détail, nous savons et nous voyons que les neurones ont d'une part un axone qui est une espèce de longue queue et d'autre part des dendrites qui ressemblent un petit peu à des branchages et des feuillages d'arbres. Eh bien, ils vont nous intéresser énormément, et les axones et les dendrites, puisque pour nous, enseignants, pédagogues, ce sont vraiment les vecteurs de notre travail. C'est ici que, en fait, nous exerçons notre métier et je vous invite à réfléchir très modestement, finalement, à ce que vous faites de votre vie professionnelle. Eh bien, vous êtes, en quelque sorte, des agitateurs de dendrites et d'axones. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que au bout des dendrites et des axones, on trouve des petites portes à serrure que l'on appelle des synapses. Et ce sont ces petites portes et ces serrures qui permettent le système d'encodage électrochimique qui nous donne la capacité à penser, à sentir, à avoir des émotions, à parler, à nous déplacer et finalement à être ce que nous sommes. On peut dire que ce qui est vraiment très important pour l'activité de notre système nerveux central et nos performances en général, eh bien, c'est la quantité et la qualité de nos synapses. Alors, j'ai dit que les synapses fonctionnent comme une porte avec une serrure chimique Eh bien, quand nous ouvrons cette porte avec la bonne clé, nous mettons en communication deux neurones ensemble qui se mettent en quelque sorte en vibration ensemble. Et cette vibration vient d'une différence de potentiel électrique au sein de la membrane du neurone. Et donc, cette différence de potentiel électrique, en quelque sorte, engramme un certain message. Et vous voyez que nous sommes dans l'infiniment petit, l'infiniment complexe. Et que si j'allais au plus encore dans le détail, il faudrait que je vous parle du protéome, c'est-à-dire cette étude des protéines qui, dans notre corps, nous permettent de vivre, et vous apprendriez que notre cerveau utilise une quantité importante de protéines différentes et que plusieurs protéines différentes peuvent fonctionner sur une même synapse et que donc l'encodage auquel nous procédons dans notre système nerveux central est bien un encodage électrochimique. En quelque sorte, nos pensées, nos connaissances, nos savoirs passent par ce type d'encodage. Je voudrais maintenant vous parler de la stabilisation sélective des synapses. Jean-Pierre Changeux, dans un autre livre qu'il intitule « L'homme de vérité », qu'il a publié en avril 2002 chez Odile Jacob Science, écrit « La connectivité particulière et la composition biochimique propre à chaque cellule nerveuse seraient ainsi le résultat de la stabilisation sélective par l'activité d'une distribution particulière de contacts synaptiques. En d'autres termes, les neurones et les synapses qui survivent sont ceux et uniquement ceux qui sont activés par des stimuli répétés. » Alors, cette loi biologique, évidemment, vous concerne, nous concerne, et nous devons absolument nous intéresser à la stabilisation sélective des synapses. D'ailleurs, on peut caricaturer un petit peu cette règle et cette loi en disant: si vous n'avez jamais été en contact avec une certaine langue et que vous ne l'avez absolument jamais pratiquée, vous êtes totalement à l'abri du risque de la parler. Autrement dit, vos neurones, n'ayant pas été stimulés par ce code-là, vous ne l'emploierez pas, vous n'y aurez pas accès, tout simplement. Et, à contrario, bien sûr, si vous avez baigné, et encore mieux, en immersion et longtemps, avec intensité, on l'a vu tout au début du cours, et dans la continuité dans une langue, bien entendu, vous serez tout à fait compétent dans cette langue et vous en serez un acteur actif. L'allemand Peter Frommertz, de l'Institut de biochimie Max Planck à Marstenried, près de Munich, a réussi deux expériences, et en particulier une que je vais vous raconter. Il a placé sur un circuit électronique sur lequel il y avait des transistors à effet de champ deux neurones vivants prélevés sur un rat. Et puis, il a fait passer une petite tension électrique dans le circuit. Cette tension électrique, il l'a immédiatement constatée, a induit une différence de potentiel d'environ 65 millivolts à l'intérieur du neurone, d'un des deux neurones, et entre l'intérieur du neurone et la membrane extérieure du neurone. Et cette différence de potentiel a mis le neurone en activité. Et donc, sa dendrite, le bras qui porte au bout la synapse, a commencé à bouger. Et donc, au microscope, bien sûr, parce que vous imaginez bien que ça se passe sous microscope, il a vu la dendrite s'étirer, puis changer de direction. Et il a constaté alors que tout le neurone se mettait lui-même à se déplacer de façon à pouvoir plus facilement aller brancher la synapse à la source de la tension électrique sur le circuit. Et en deux jours, cette neurone, qui était d'ailleurs restée vivante pendant deux jours, eh bien, Peter Frommertz a constaté qu'elle avait bougé de 100 microns, ce qui évidemment peut vous paraître une distance dérisoire, mais qui au niveau de l'échelle de notre cerveau et à l'échelle neuronale à laquelle nous parlons, est une distance en réalité considérable. Et donc, cette neurone vivante s'est déplacée toute seule et elle est allée brancher sa synapse sur le cuivre du circuit électronique. Elle est allée chercher la source de cette source électrique, en quelque sorte. Donc, nous savons que les neurones vivants, lorsqu'ils sont dans un environnement qui les sollicite, bougent, se déplacent, les dendrites peuvent s'allonger, les axones peuvent s'allonger, et donc ils vont se déformer et j'allais dire, se réformer, en quelque sorte, en fonction des stimuli qu'ils vont recevoir. Et vous voyez bien que tout notre système nerveux central, de cette façon, est construit sur le mode adaptatif et très darwinien qui nous prédispose à changer de milieu, à changer de conditions naturelles, à changer de conditions sociales, à changer de langage, de langue au moins, à changer de moyens d'entrer en communication, de moyens de se déplacer. Nous sommes donc des animaux qui ont été particulièrement favorisés par l'évolution de leur espèce pour être adaptables. Et lorsque nous entrevoyons notre propre bagage biologique sous cet angle, eh bien, nous sommes moins surpris de constater que l'être humain ait colonisé la totalité de la planète et que des sociétés puissent exister sur la banquise, comme la société des Inuits, ce qui est quand même quelque chose en soi d'époustouflant, surtout lorsque l'on sait qu'ils ne se nourrissent jamais avec des légumes. Alors, voyez que la méthode expérimentale nous montre bien que ce sont les stimuli extérieurs et la transformation en messages électrochimiques qui mettent en marche la construction synaptique et que donc la règle d'airain, pas de stimulus, pas de synapse, s'appliquera. Tellement que nous allons voir vivre chacun, et nous avons déjà vécu chacun, la mort neuronale, puisque un certain nombre des neurones que nous avions à notre naissance n'ont pas survécu parce qu'ils n'ont pas tout simplement été sollicités et qu'il n'y a pas eu d'activité pour eux. Eh bien, la stabilisation sélective des synapses signifie tout simplement que c'est l'activité dans laquelle baigne le sujet humain qui va maintenir en vie ou non les populations neuronales, maintenir actifs et en possibilité d'ouverture les synapses ou non, et que donc le bon vieux proverbe « c'est en forgeant que l'on devient forgeron » est d'une vérité biologique totale. Alors, nous sommes là dans un effort qui nous renvoie de nouveau vers la DX6 pour nous construire une image mentale et nous représenter ce que c'est que la stabilisation sélective des synapses, sachant que vous n'avez probablement jamais vu de synapses, vous n'avez probablement pas réellement vu de neurones, et qu'en tout cas, vous n'avez jamais vu vos synapses ni vu vos neurones. Eh bien, nous allons, pour parvenir à essayer de construire ensemble une image mentale de ces phénomènes microscopiques qui sont si essentiels pour nous, nous allons essayer de passer par des mots et construire. J'avais un ami qui disait, nous construisons des cathédrales de mots pour essayer de nous comprendre. Eh bien, nous allons essayer de construire une petite cathédrale de mots pour voir dans le détail ce que c'est que la stabilisation sélective des synapses. La règle, quand on la reformule de façon plus brutale encore, dit ce qui ne sert pas meurt. Et finalement, vous savez, toute notre biologie est construite sur ce paradigme. Si vous avez un accident et que vous êtes immobilisé dans un lit, vous allez voir fondre votre masse musculaire. vos fibres musculaires, finalement, disparaissent parce qu'elles ne servent pas. Si au contraire, vous vous soumettez à un entraînement régulier, intensif, vous aurez rapidement des muscles et des performances d'athlète parce que voilà, notre biologie humaine est complètement conditionnée à ce qui ne sert pas meurt, ce qui sert se développe, ce qui est en activité se développe. Alors, je vous invite très très fortement à prendre le temps de lire le paragraphe sur la théorie de l'épigénèse par stabilisation sélective qui commence à la page 277 de L'homme neuronal de Jean-Pierre Changeux. C'est vraiment un paragraphe extrêmement important pour vous, enseignants, et je vous renvoie ici vers l'auteur parce qu'il vaut mieux l'original qu'une pâle copie. Dans les constructions synaptiques, ce qui intervient, et j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est la spécialisation de certaines aires neuronales. Sachez que cette spécialisation est assez statistiquement vraie. Elle n'est pas totalement... On ne peut pas dire que 100% des humains sur Terre ont exactement l'aire de Broca au même endroit ou l'aire de Wernicke au même endroit. Mais c'est vrai que statistiquement... nous fonctionnons à peu près tous selon le même schéma. Sachez simplement qu'environ 15% de la population a un système de positionnement de ces zones spécialisées qui est inversé. La majorité, 85% environ des populations humaines, ont l'aire de Broca et de Wernicke sur l'hémisphère gauche. 15% l'ont dans l'hémisphère droit. Et que d'autre part, en cas d'accident, d'ablation, ou de mort neuronale accidentelle sur telle ou telle aire, une aire de remplacement prend presque systématiquement la place s'il y a une activation, une activité, une sollicitation stimulante. Donc la plasticité de notre système nerveux central est extrêmement importante et cette plasticité va être notre allié, nous enseignants, au cours de la scolarité. Sachez par exemple que l'ensemble des connexions neuronales seront revisitées et remaniées lors de la découverte de l'écriture parce que les zones de la vision vont être réorganisées et les synapses des zones corticales de la vision qui se situent complètement à l'arrière de votre crâne, eh bien à ce moment-là, vont être réformées, reconstruites et il en est de même pour d'autres. Et donc, on pense à Darwin, effectivement, toute la pensée de Darwin semble être derrière cette mise en jeu d'une plasticité du système nerveux central qui nous donne une adaptativité étonnante. Et de même que je vous disais au cours de l'intervention sur la DXI, faites confiance aux enfants, ils sont nés pour apprendre et ils vous arrivent déjà bien savants en classe. Écoutez, faites confiance aux enfants, ils ont un bagage biologique qui les prédispose à s'adapter au biotope classe que vous allez leur proposer. Donc ne vous apitoyez pas trop, ils ont tout à fait le potentiel pour arriver à surmonter la difficulté. Simplement, soyez très attentifs à eux et si vous sentez qu'ils ont des difficultés, ayez ce réflexe humain et d'humanité qui est de les accompagner plus, de les accompagner mieux sur cette conquête-là. Mais faites-leur confiance et n'ayez pas peur de leur proposer des situations qui sont de vrais challenges. Alors personnellement, je me représente les réseaux neuronaux comme si nous nous trouvions, par exemple, assis sur la Lune et que nous regardions la Terre. Eh bien, nous ne voyons ni les routes, ni les voies de chemin de fer, ni même les autoroutes. Nous n'apercevons pas grand-chose. Eh bien, tout simplement parce que nous sommes trop loin et que, de même que dans notre cerveau, le niveau microscopique où les choses se passent nous est imperceptible. Mais les choses se passent quand même Et il y a dans notre cerveau des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions, de chemins, de routes, d'autoroutes, et qui connectent, relient, mettent en communication beaucoup de zones. Mais rien de tout cela n'est fait au hasard, rien ne s'est construit simplement par, comme on a l'habitude de le dire, l'opération du Saint-Esprit. Non, l'ensemble de ces routes, de ces chemins, a été tracé par l'activité, un petit peu comme lorsque dans un pré, où toute l'herbe est à peu près similaire, un groupe humain emprunte le même passage, eh bien, au bout de 10, 15 passages, on va commencer à deviner un petit sentier, et si ce passage s'intensifie, il deviendra chemin, et puis ainsi de suite, c'est comme ça que les choses s'agrandissent. Eh bien, vous voyez que la répétition, dans ce cas, joue exactement le même rôle, et que dans notre cerveau, les connexions qui sont les plus sollicitées vont être les plus solides, les plus vaillantes, avec un procédé, une procédure biologique qu'on appelle la myélinisation, qui est l'ajout d'une gaine protectrice autour du neurone, autour des dendrites et de l'axone, qui améliore les performances électrochimiques du neurone. Donc la nature a tout prévu. Nos activités les plus courantes, nos stimuli les plus courants vont être favorisés par rapport aux autres et ils vont bénéficier d'un outillage plus perfectionné permettant en quelque sorte d'avoir le TGV au lieu d'avoir le petit train de banlieue. Alors avec 15 milliards de cellules nerveuses dans notre cerveau, bien sûr, la nature a eu du mal à mettre tout au même niveau et à égalité. Et peut-être tant mieux, parce que de ce fait, elle nous prévoit que nous allons privilégier dans notre vie un certain nombre d'activités, un certain nombre de compétences. Et vous comprenez bien que biologiquement, un enfant ne peut pas et ne pourra pas, sauf vraiment des cas d'exception rarissimes, être à égalité de performance dans l'excellence dans tous les domaines de l'activité scolaire. Il y a une sorte d'impossibilité biologique à cela, et il serait peut-être bon qu'en tant qu'enseignant, vous ayez quelques mots pour rassurer les enfants à ce sujet et leur dire qu'il est tout à fait logique d'avoir des domaines d'excellence et des domaines où les choses sont un petit peu plus compliquées, difficultueuses, et où on réussit moins bien. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que comme ça permet de convoquer un peu humilité et d'éviter d'avoir des réactions peut-être désagréables au niveau social. Alors, votre travail, qui est un travail sur la plasticité neuronale de vos élèves, c'est un travail qui va être finalement, sur le papier, extrêmement facile. Leur biologie est faite de telle façon qu'ils sont nés pour apprendre. Ils sont en besoin de sollicitations, d'activités pour apprendre. Et ils ont naturellement, vraiment naturellement, faim de sollicitations, de stimuli. La seule chose qu'il faut, c'est qu'ils aient un sentiment de sécurité. Parce que, comme tous les mammifères, devant une émotion de peur, les petits êtres humains hésitent entre deux voies, la plus répandue qui est la fuite et l'isolement, et la seconde qui est moins répandue qui est l'attaque et l'agression, mais que vous connaissez bien parce que vous fréquentez ces deux comportements mammifères dans vos classes et vous devez les interpréter pour ce qu'ils sont. Ce sont des signaux d'alerte, ce sont des signaux de danger que vous adressent vos élèves en vous disant qu'ils vivent la peur, qu'il y a quelque chose qui, à ce moment-là, ne leur permet pas d'être disponibles avec leur plasticité neuronale pour quelque apprentissage que ce soit. Ils vous signalent que leurs portes synaptiques sont totalement fermées aux apprentissages que vous proposez. Soyez très attentifs à ces signaux-là. Ce sont véritablement des signaux d'origine biologique et qui viennent du plus profond de l'être humain. Alors nous avons vu tout à l'heure que les apprentissages les plus précoces étaient ceux que nous conservions le plus longtemps dans notre mémoire. Eh bien oui, parce que tout simplement, la nature a prévu de privilégier, de nous adapter à l'endroit où nous naissons. Vous savez que notre naissance n'est pas notre choix de sujet. Je ne connais pas d'individu qui ait choisi ses parents. Je ne connais pas d'individu qui ait choisi le lieu, sur lequel il est venu au monde sur Terre. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et donc, pour répondre à cette situation qui est de mettre finalement un être vivant inadapté, imparfait, incomplet, incapable de survivre par lui-même, le mettre au monde dans un endroit imprévu pour lui, eh bien la nature a compensé ce formidable handicap par un outillage biologique qui nous permet d'engrammer plus fortement toutes les perceptions, toutes les sensations et tous les stimuli que nous recevons dans les toutes premières années de la vie. Alors vous comprenez que par rapport à l'immersion, par rapport à notre objectif d'apprentissage de nos langues, d'une langue cible à l'école, eh bien c'est quelque chose qui va compter pour déterminer la réponse à la question à quel âge vaut-il mieux commencer l'immersion et qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil aux parents. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez vu que au cours des 2 premières années de la vie, l'enfant à la maison a appris le langage et il a appris à exprimer une parole encore imprécise, incomplète, mais il est déjà un locuteur de la langue de son environnement. Eh bien, nous, avec l'immersion, nous allons surfer sur cette vague extrêmement porteuse, extrêmement forte, qui est qu'il a déjà des compétences pour apprendre la langue, pour apprendre une langue. Et donc, nous allons nous servir de cette compétence pour apprendre une langue, pour apprendre la deuxième langue. Et nous allons avoir à mettre en jeu, finalement, des conditions très proches de celles qui lui ont permis d'apprendre sa langue maternelle. Tout simplement, nous allons l'immerger, nous allons le baigner dans un langage courant et nous allons faire de la langue cible, la langue d'usage, la langue de communication, la langue à tout faire de la vie quotidienne. Et nous allons surtout beaucoup la mettre en jeu. Plus la langue sera présente, plus la langue sera descriptive, plus la langue sera mise en jeu et l'enfant invité à l'instrumenter, à lui-même la mettre en jeu, plus rapidement il va se l'approprier, devenir compétent et jouer avec. Les enfants sont extrêmement joueurs et le langage est un formidable terrain de jeu. Il est évident que par le jeu, par les jeux corporels, la danse, les comptines, la chanson, par tout ce qui est le rituel de la vie de la classe, nous avons à notre disposition un outillage absolument fabuleux et complet pour leur permettre d'accéder très très rapidement au stade de locuteur actif de la langue seconde. Alors nous avons des contre-exemples de ça, bien sûr, sur lesquels nous avons à réfléchir et je voudrais juste évoquer devant vous rapidement Victor de l'Aveyron. Vous avez certainement entendu parler de l'histoire de cet enfant, vis-à-vis de laquelle d'ailleurs je vous invite à prendre suffisamment de distance épistémologique. Attention, Victor de l'Aveyron est une histoire pour laquelle nous avons une description qui est une description trop univoque, pas suffisamment scientifique encore qu'elle ait eu la volonté de l'être par le médecin qui est Jean-Marie Itard, qui l'avait recueilli, mais un peu tardivement. Donc, je vous invite également à être dans un esprit de distance critique par rapport à ce qu'écrit Jean-Marie Itard. Mais il est clair, et d'autres exemples sont venus abonder cela, en particulier le tragique exemple de la petite Jenny aux États-Unis en 1973, eh bien, il est clair que lorsque un enfant se trouve dans un univers, dans un contexte d'indigence sociale, et en tout cas d'indigence de la parole, il perd assez rapidement la capacité à devenir lui-même un être humain locuteur. Et un être humain locuteur au niveau des êtres humains, c'est-à-dire ayant la capacité syntaxique, on l'a vu tout à l'heure. Victor de l'Aveyron disait des mots, comme les petits chimpanzés disent des mots. Jenny disait des mots, comme les petits chimpanzés disent des mots. Mais ni l'un ni l'autre n'ont pu récupérer la capacité syntaxique, c'est-à-dire organiser des énoncés pour lesquels des règles d'ordonnancement concourent à complexifier le sens. Eh bien, cela, en apportant précocement l'immersion aux enfants, vous l'enrichissez de façon considérable chez vos élèves. Parce que, au lieu d'avoir une capacité syntaxique, ils acquièrent rapidement deux capacités syntaxiques, c'est-à-dire qu'ils ont, comme ils ont deux bras, comme ils ont deux jambes, comme ils ont deux yeux et deux oreilles, ils auront deux codes syntaxiques différents, si possible contrastifs, qui vont leur permettre tout simplement d'avoir la stéréo, j'appelle ça avoir la stéréo, et du coup, ils vont pouvoir apercevoir caractéristiques syntaxiques qu'un monolingue ne peut pas apercevoir parce que, par la méthode comparative, nos enfants bilingues vont, eux, pouvoir constater des phénomènes et les apprécier, les prendre en compte, alors que un enfant bilingue sera totalement aveugle à ces phénomènes-là. Alors, je ne fais pas trop de glose autour de Victor de l'Aveyron. Il y a eu le film, bien sûr, dont vous avez certainement tous vu les images. Et si vous ne l'avez pas fait, regardez-le. C'est quelque chose qui vous aidera à y réfléchir. Vous pourrez facilement lire sur la triste histoire de Jenny aux États-Unis en 1973. Et en tout cas, essayez de vous documenter un petit peu au sujet de ces cas d'indigence de vie sociale et de vie langagière et sur les dégâts absolument considérables qu'il déclenche sur le système nerveux central des sujets qui en ont souffert. Alors, les scientifiques aujourd'hui travaillent à établir des critères plus précis et plus indiscutables sur les seuils qui peuvent borner ce qu'on va appeler la période critique. Et pour nous, la période critique, la période la plus favorable pour l'apprentissage des langues. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'un enfant a été correctement éduqué dans un milieu social suffisamment riche et dans un milieu langagier suffisamment étoffé, il a un premier seuil, nous disent les scientifiques, vers l'âge de 8 ans, qui est qu'un certain nombre de phonèmes qui n'appartiennent pas à la langue ou aux langues dans lesquelles il a baigné au cours de ses premières années, ben, il devient sourd à ces phonèmes, c'est-à-dire qu'il ne les entend pas. Et je vous annonce que, par exemple, en ce qui concerne les tons du chinois mandarin, vous êtes probablement des sourds complets. Vous n'avez pas cette compétence auditive et vous ne pouvez pas décrypter un certain nombre de phonèmes qui sont discriminants et pertinents pour les Chinois. À l'inverse, chez la plupart des Asiatiques qui n'ont pas été en contact avec une langue occidentale et en tout cas pas avec le français, il y a une confusion forte entre les liquides L et R, et ils ont une sorte de surdité à la différence entre ces deux phonèmes, ce qui leur complique l'apprentissage de nos langues lorsqu'ils ont dépassé l'âge de 8 ans. Un second seuil intervient entre 11 et 15 ans, qui est un seuil plus complexe et plus définitif. On sait que à partir de ce seuil-là, une fois dépassé, l'apprentissage des langues, en tout cas au niveau phonétique, va devenir beaucoup plus compliqué, demander beaucoup plus de travail et d'entraînement, et que il sera probablement plus facilement imparfait. Vous le constatez bien entendu avec les familles immigrées. Lorsqu'une famille vient s'installer en France, vous voyez bien que les enfants se mettent assez rapidement et beaucoup plus complètement aux standards de la langue qui les entoure. Et par contre, le papa et la maman, souvent, restent des locuteurs moins performants, en tout cas au niveau phonétique et phonologique. Alors, cette période critique, bien sûr, nous concerne et nous parle pour nos écoles, puisque elle va avoir un sens et un rôle par rapport à notre stratégie de recrutement. Et il est important, par exemple, que nous fassions l'effort d'informer le plus complètement possible les responsables associatifs de nos écoles de ce que c'est que la période critique et de comment et pourquoi scientifiquement nous pouvons nous aventurer à conseiller tel ou tel âge préférentiel pour l'inscription à l'école plutôt que tel autre. Bien entendu, il faut, je pense, que nos écoles aient une stratégie consciente, voire écrive, au sujet de l'importance qu'il y a à ne pas laisser trop loin derrière l'enfant la stratégie toute primitive de l'apprentissage de la langue maternelle à partir de rien, et de réanimer cette stratégie pour la langue seconde tant qu'elle est encore présente et à disposition. Et donc, il ne faut pas trop tarder à faire enchaîner l'arrivée de la langue 2 par rapport à la langue 1. C'est important parce que c'est une voie de facilitation pour l'enfant, c'est une aide précieuse qui lui est fournie. Ensuite, il faut savoir que le seuil de 8 ans dont nous avons parlé, qui est important, arrive relativement vite, et que d'autre part, il existe un seuil beaucoup plus discuté, beaucoup plus sujet à débat, que certains scientifiques situent à l'âge de 4 ans. Et donc, j'aurais la tentation de dire que, principe de précaution oblige, il serait peut-être prudent de proposer aux parents d'introduire l'immersion dans la vie de leur enfant entre l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, qui est l'âge où les petits-enfants aujourd'hui commencent à devenir locuteurs un peu holistiques, mais locuteurs quand même de leur langue maternelle, et 4 ans, qui est un premier seuil qui commence à compromettre les plus grandes possibilités d'apprentissage d'une langue. Donc, vous voyez que notre entonnoir commence à se refermer et que nous commençons à esquisser une réponse à la question qui était posée au départ. De toute façon, on sait que l'enfant dans nos classes, plongé en immersion, va s'appuyer très fortement sur sa langue première pour s'approprier la langue seconde. Il va reconstruire la langue seconde dans sa tête, puisqu'il va parler silencieusement en même temps qu'on lui parle, et tout en reconstruisant sa langue seconde, il va consolider, il va conforter et il va énormément développer sa langue première. Alors ça, c'est important, et il est important d'avoir conscience que une langue renforce toujours l'autre, et non pas le contraire. On a souvent chez les adultes en tête une représentation mentale tragiquement archaïque du rapport des langues entre elles dans nos cerveaux. Eh bien, nos langues dans notre cerveau ne sont pas en opposition face à face, l'une par rapport à l'autre. Il ne s'agit pas pour l'une de prendre la place de l'autre. Ça n'a rien à voir. Les scientifiques ont montré que l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, d'un enfant qui est mis en situation de bilingue, sa vie se déroule en bilingue, eh bien cet enfant-là développe une aire de Broca plus volumineuse, une aire de Wernicke plus volumineuse, une aire de Broca plus irriguée par un système sanguin plus complexifié, une aire de Wernicke plus irriguée par un système sanguin également plus diversifié, et que donc c'est au contraire un système d'ajout, et que lorsque l'immersion a commencé suffisamment de bonne heure, et en tout cas, et là la certitude est totale, avant l'âge de 4 ans, cette inscription biologique en développement supérieur de l'aire de Broca et développement supérieur de l'aire de Wernicke, cette inscription biologique, on la constate avec l'imagerie cérébrale par résonance magnétique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une modification biologique pour les enfants précocement bilingues. Ce qui me conduit à plaider, vous le voyez, avec une certaine intensité, pour que nous menions un combat, et un combat, je vais expliquer plus loin pourquoi, pour que la scolarisation en immersion commence entre l'âge de 2 et 3 ans. Je vais essayer tout à l'heure, en conclusion, d'aller vers cette direction. Le tout est que les indices que les sciences cognitives nous fournissent sont extrêmement convergents pour aller dans cette direction. Et j'en arrive à la conclusion sur la période critique et sur la stabilisation sélective des synapses. Nous pouvons maintenant dire et constater, après nos lectures et puis ce moment passé ensemble, que il y a une période qui est plus favorable dans la vie, dans le développement ontologique de l'être humain pour apprendre les langues, et que nous savons maintenant, aujourd'hui, nous n'avons plus l'excuse de l'ignorance, nous savons que lorsque nous proposons l'immersion entre 2 ans et 3 ans à un enfant, il reconduit une compétence dont il vient de faire usage pour aller à la conquête de sa langue maternelle. Il est donc dans la reprise d'une compétence connue, et que d'autre part, il a à ce moment-là, je dirais, la fenêtre de tir la plus favorable possible pour engrammer une seconde langue. Ce qui lui permettra ultérieurement d'avoir des facilités très grandes d'accès à une langue 3, voire à une langue 4 ou 5. Alors, à quel âge doit-on conseiller de commencer l'immersion dans nos écoles? Eh bien, je suis un petit peu catégorique et formel, je prends le risque. Je vous demande de proposer aux parents de scolariser leurs enfants en immersion entre l'âge de 2 et l'âge de 3 ans, en fonction des commodités. Peut-être pas d'ailleurs à plein temps immédiatement, parce que nous avons vu que la capacité d'attention de ces enfants est d'environ 5 à 7 minutes par heure, et que par conséquent, il n'est peut-être pas nécessaire de vouloir mettre une intensité totale immédiatement. Ça n'est probablement pas d'une efficacité complète, mais l'important est que les premiers stimuli et les premiers phonèmes différents, les premières chaînes syntaxiques différenciées interviennent dans la bonne fenêtre de tir. Alors, intéressez-vous, bien sûr, et je vous renvoie de nouveau vers le livre que j'ai cité tout à l'heure, « Cognition et psychologie », en particulier, où l'un des auteurs est Olivier Houdet. Intéressez-vous fortement à ce que la technique de l'imagerie cérébrale par résonance magnétique a apporté à nos connaissances, et allez par vous-même à la rencontre de ces procédés, de ces phénomènes, de ces processus. Sachez vous orienter de plus en plus par rapport à ces constructions complexifiées de zones et d'aires cérébrales qui se spécialise en particulier en ce qui vous concerne dans le langage et la pratique des langues.